RFI. Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot, c'est la fête en Mauritanie. Le pays célèbre sa première qualification à une Coupe d'Afrique des Nations. Ce 18 novembre fera date dans l'histoire du foot mauritanien et nous sommes en ligne dans un instant avec l'homme qui a mené l'équipe nationale à ce succès, le sélectionneur Corentin Martins. Le week-end a été marqué par ses éliminatoires de la CAN 2019 et le plateau se précise à l'issue de cette avant-dernière journée. On a maintenant 13 des 24 qualifiés. Le week-end en Afrique a été tellement riche qu'on y reviendra et aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, on s'arrête aussi sur les cas du Maroc, de l'Algérie, du Nigeria qui ont validé leur ticket. Pour en parler avec nous, notre confrère de France Football, Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Bonjour Christophe et bonjour à tous.
Patrick Juillard de Foot 365 Afrique. Bonjour Patrick.
Bonjour Christophe et bonjour à tous.
Et Marc Libra qui est avec nous également.
Bonjour, bonjour à
Marc.
Tous.
Au sommaire également, la Ligue des Nations, là c'est le foot européen et c'était pas mal non plus. Que de surprises, mauvaise surprise pour la France, battue aux Pays-Bas avec une prestation qui, selon les appréciations, va de médiocre à inquiétante. Mauvaise surprise aussi pour la Belgique, écartée de la finale à 4 par la Suisse. Enfin, l'Angleterre a retourné la situation face à la Croatie, avec en vedette un certain Harry Kane. C'est Radio Foot, préparé avec David Finzel et Laurent Salerno. Nous sommes ensemble pour 45 minutes, plus le temps additionnel.
مازالت خطيرة موريتانيا الفريق الموريتاني الان امبر كامارا كامارا هجمة خطيرة الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني يا موريتاني الهدف الثاني موريتاني اسماعيل تشاكيتي يسجل ثنائية تكلمت وقلت الاخضر تشاكيتي والامل معلق عليك يا سمعة.
Oui, on est fiers aujourd'hui parce qu'on a gagné, c'est la première fois.
On est très content.
Moi-même, je serai au Cameroun, Inch'Allah.
C'est historique, c'est une première. Je n'ai pas les mots qu'il faut pour qualifier exactement ce qui vient de se passer, mais je sais que c'est historique.
Vive la Mauritanie! Vive la Mauritanie!
Voilà les réactions après la victoire 2-1 sur le Botswana, après la qualification surtout pour la CAN 2019 de la Mauritanie. Réaction recueillie par Salem Mejbour. Salem, bonjour Corentin Martins.
Bonjour.
Et félicitations. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Un peu fatigué par toutes ces émotions? Ça a dû être difficile cette sortie de stade, non? Racontez-nous.
Ah oui, la sortie, oui, ça fait la sortie, ça a été compliqué. On a dû faire 30 minutes pour 50 mètres, donc.
Ah oui.
Et c'est vrai qu'il a fallu l'arrivée des CRS, policiers, pour se frayer un petit chemin pour revenir à notre hôtel, quoi. Donc ça, bon, c'était normal. C'était un jour, une soirée historique et avec tout ce que ça, la ferveur que ça peut entraîner.
Ouais. Vous avez, il y avait quoi? Il y avait des centaines, des milliers de personnes autour de vous?
Je sais pas exactement combien de personnes il y avait, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde. Mais après, devant notre hôtel, après, ils sont tous venus devant l'hôtel. On avait la chance de cet hôtel-là d'avoir une belle terrasse, donc on a pu saluer les supporters qui sont venus nous rejoindre. Et puis après, devant l'hôtel, sur l'avenue qu'il y avait, je suis pas sorti après, mais il paraît qu'il y avait du monde partout sur les routes. Toute la nuit, c'était effectivement jusqu'à même 5h du matin.
Mmh. Alors, le match, on va y revenir assez brièvement, mais quand même, ça n'a pas été si simple que ça. Vous gagnez, mais vous avez été mené assez rapidement. Hein. Vous avez encaissé un but dès la 4e minute. Ils sont coriaces, ces Botswanais.
Oui, c'est ce qu'on s'attendait. Hein. J'avais insisté là-dessus auprès des joueurs que c'était une équipe qui ne lâcherait rien. La preuve, c'est qu'ils, sur la confrontation, la double face au Burkina, les journées d'avant, ils avaient perdu 3-0 au Burkina, ils ont fait 0-0 chez eux, donc ça prouve qu'ils voulaient rien lâcher. Et puis on a vécu un match difficile parce qu'on prend un but d'entrée et qu'on marque à la fin, mais après sur l'ensemble du match, il n'y a pas eu photo sur le jeu, sur les occasions créées. On a manqué un peu d'efficacité, mais c'est vrai que ce but est venu un peu tard, mais c'était un très beau scénario.
Ouais. On regarde le classement là, ce lundi, on voit que la Mauritanie est tout en haut avec un total de 12 points. Alors on entend venir à droite, à gauche les oui, la Mauritanie y est, Madagascar y est, mais c'est plus une canne à 16, c'est une canne à 24. Or, bah, vous êtes devant et donc avec la manière, ça fait aussi partie de votre grande fierté, ça j'imagine.
J'avais dit à un de mes dirigeants au tirage au sort, en sachant, c'est après la première journée qu'on savait que le deuxième serait qualifié aussi. Et je lui avais dit dès le départ, je dis moi je veux qu'on termine premier parce qu'on aura toujours ce genre de remarques justement. Et maintenant il y a deux équipes, donc ça offrait une chance supplémentaire, mais je veux terminer premier pour qu'on n'ait pas à dire ça justement.
Oui. Messieurs, alors il y a autour de la table donc Patrick Juillard, Nabil Djellit, Marc Libra, qui veut prendre la parole? Patrick.
Oui, bonsoir ou bonjour, je sais pas, Corentin. Félicitations bonjour. D'abord pour cette qualification historique. Et effectivement, comme le disait Christophe, je pense que le fait d'avoir deux qualifiés a sans doute donné confiance à des équipes comme la vôtre, mais si on voit le total des points, vous êtes premier du groupe et vous allez sans doute terminer à cette place. Donc c'est pas une qualification au rabais de raccro. Donc ça mérite d'autant plus d'être souligné. Maintenant, quelle est, d'après vous, c'est ma question, quelle est la part du travail tactique, mais du travail de structuration et du travail de structuration du football mauritanien dans cette qualification?
Pour parler de progression et de résultats, j'ai envie de dire que c'est le maintien de la confiance du président, parce que moi ça fait 4 ans que je suis là. J'avais signé un premier contrat de 2 ans, il m'a prolongé, et le fait de garder une certaine stabilité, une certaine continuité dans le travail. Les joueurs, ça fait 4 ans que je suis avec eux et ils connaissent ma façon de travailler, ma personnalité aussi. Et c'est vrai que ça rend les choses plus faciles. Maintenant, il faut que ça se confirme par des résultats. Et aujourd'hui, ça lui donne raison et je le remercie encore de sa confiance. Mais c'est vrai que au tirage au sort sur les 4 équipes, on était le petit poussé parce on était la seule équipe à ne s'être jamais qualifiée pour la CAN. Mais comme j'ai l'habitude de dire aux joueurs, on a pour ambition de gagner les matchs qui se présentent. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de gagner 4 matchs sur 5 jusqu'à présent, ce qui nous permet d'être qualifiés. Mais rien n'est facile pour nous. Pour autant, c'est toujours des matchs où il faut qu'on souffre justement pour les gagner, parce qu'on a peu de marge, on n'a pas des talents individuels que peuvent connaître et avoir d'autres pays africains, mais par contre ça repose sur une grosse générosité, une grosse débauche d'énergie et une grande solidarité aussi.
Alors si on vous écoute bien, les 3 autres équipes, on va les citer, hein, qui viennent derrière la Mauritanie au classement, il y a l'Angola, le Burkina Faso, le Botswana. Pour l'instant c'est l'Angola qui passe avec vous, mais le Burkina Faso n'est qu'à 2 points de l'Angola. Tout ça va se jouer sur la 6e et dernière journée au mois de mars prochain. Si on vous écoute bien, les Burkinabés ont du souci à se faire, parce que les Mauritaniens, même déjà qualifiés, vont aller à Ouagadougou pour gagner.
Écoutez, nous, étant qualifiés, on se projette déjà sur la CAN, donc c'est un match qui va servir de préparation aussi, mais on va pas se déplacer pour perdre. Déjà, c'est pas rendre honneur au drapeau mauritanien, et puis aussi, on est là pour respecter l'esprit sportif, donc on va tout donner. Maintenant, si le Burkina est meilleur et qu'il gagne et qu'il passe, tant mieux pour eux.
Donc Nabil.
On ne va pas non plus se déplacer pour être en vacances.
Nabil Djellit.
Bonjour monsieur Corentin Martins. Déjà, grand plaisir de parler avec vous. J'ai quelques souvenirs de vous comme footballeur. Vous aviez un petit peu de talent, disons. Un petit peu beaucoup, même. Pour le grand public, 2 questions très simples. Quel style de football prenez-vous avec la Mauritanie? Comment joue la Mauritanie? C'est une équipe de possession, de contre. Quel genre d'équipe c'est? Et deuxième question, est-ce que vous allez continuer un travail de prospection au niveau des binationaux, notamment en perspective de la CAN? On voit par exemple Madagascar qui se renforce. Est-ce que c'est le cas de la Mauritanie ou pas? Ou est-ce que vous allez continuer avec ce groupe?
Ah, c'est une bonne question. Pour parler justement des binationaux, on va voir s'il y a... J'ai déjà contacté, ça fait depuis 2 ans que j'ai contacté déjà 2 joueurs. On va voir si maintenant ça leur donne envie ou pas.
Lesquels?
Il y a Camara qui est à Fulham, qui a des origines mauritaniennes. Il y a l'autre Camara, gardien de but, qui est à Strasbourg aussi. Donc,
Bigourou Camara.
Maintenant, maintenant je peux pas forcer les joueurs. C'est à eux de ressentir vraiment s'ils veulent défendre le drapeau mauritanien ou pas. Donc, et je veux pas non plus ramener 5-6 joueurs. Il faut que ce soit vraiment des plus-values. Il y a un groupe qui s'est qualifié pour la CAN et je veux pas le chambouler non plus.
Vous avez de plus en plus d'expatriés hein, dans votre groupe. Ça a évolué, ça, ces derniers mois, ces dernières années.
Oui, je vais avant de répondre. C'est vrai qu'à tous les expatriés, c'est vrai qu'il y avait une autre question sur ma façon.
Oui, de jouer.
Oui, c'est vrai.
J'attends des joueurs. Moi, je suis pas dans le style. Moi, je suis un entraîneur de possession, de contre-attaque. Je veux surtout être efficace et c'est empêcher l'équipe adverse de se replacer le plus vite possible. Donc, c'est d'aller vite vers l'avant et une fois qu'on est face à une défense regroupée, c'est de rentrer dans une phase de possession. Donc, c'est assez simple. Mais en tout cas, ce que je demande à mes joueurs, c'est de repartir proprement de derrière. C'est ce qui m'intéresse, de trouver des relais par le milieu et qu'on arrive à se créer des occasions comme ça. Donc, c'est ce que je demande. Après, par rapport aux expatriés, quand je suis arrivé en Mauritanie il y a 4 ans, j'avais 7 expatriés et c'est vrai qu'aujourd'hui j'en ai 17. Donc, il n'y a pas eu des joueurs qui sont venus se rajouter, ou en tout cas très peu. Mais c'est surtout que les joueurs mauritaniens, à travers les quelques bons résultats qu'on a pu faire, ont réussi à s'expatrier par leur qualité et surtout que les joueurs mauritaniens, ils commencent à être regardés d'un œil différent d'auparavant.
Question de Marc Libra. Je crois que vous êtes croisé d'ailleurs il y a quelques années.
Il m'a fait du mal à l'époque.
Ah bon?
Ah mais non, il fallait. C'était un très grand joueur. Ça va, Corentin? Tout va bien?
Oui.
Écoute, félicitations. Tout à l'heure, tu parlais de ta façon d'entraîner. Est-ce qu'elle est un petit peu différente de la version française que tu as pu connaître avec Brest? Est-ce que tu es obligé de t'adapter, de changer ton système d'entraînement, par exemple?
Non, pas du tout. Non, je m'entraîne. J'ai envie de dire à la française, entre guillemets. La seule façon de m'adapter par rapport aux joueurs, c'est de faire attention à la charge de travail parce que pour certains ils sont
pas habitués à bosser autant, c'est ça?
Oui. Donc faut être vigilant par rapport à ça. Après, en fonction des déplacements qu'on peut avoir aussi, avion, ou faire attention aux joueurs qui peuvent nous rejoindre aussi, parce que des fois il y en a qui viennent du Liban, de l'Arabie Saoudite, donc faire attention à la séance d'entraînement du jour suivant. Donc je suis surtout attentif par rapport à ça, mais après tout ce qui est physique, technique, tactique, je fais avec ce que je ressens et ce que j'ai appris en France.
Corentin Martins, on vous a vu à la tête de l'équipe nationale des locaux au début de cette année 2018 au CHAN. C'était la deuxième participation du pays au CHAN. Bon, ça s'était pas bien passé. Trois défaites. Depuis, d'ailleurs, vous avez quitté ce poste de responsable des joueurs locaux. Ma question, c'était, est-ce que cette expérience que vous avez eue d'un tournoi continental, même si ce n'était que, entre guillemets, les joueurs locaux, peut vous servir beaucoup pour ce qui vous attend à la CAN 2019 au Cameroun?
Oui et non, c'est oui, parce que c'est une compétition différente, c'est très court, donc il faut vraiment rentrer dans la compétition en jouant le premier match, sans préparer le deuxième et le troisième, parce que c'est des joueurs complètement différents. On a un groupe quand même avec des joueurs, pour certains ou pour beaucoup, qui sont professionnels, donc c'est des matchs où à enjeu, donc faut avoir affaire à des compétiteurs, mais par rapport à ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir joué une compétition comme le CHAN, à moi en tout cas, je vais pas le préparer différemment, mais au moins j'ai une idée de comment préparer ce tournoi.
Je note que vous avez fait référence au premier match et qu'au CHAN, vous aviez commencé par une défaite sévère contre le Maroc, c'est bien ça.
Hein. Oui, et justement...
4-0.
Oui, 4-0. Et sur les résultats, c'est vrai qu'on avait pris le premier but à la 67e minute. Sur un fait de jeu, c'est que l'arbitre avait mis 3 minutes avant de nous faire re-rentrer un joueur qui était blessé. Et comme par hasard, c'était un milieu et il y avait une passe juste à l'endroit où il devait se positionner. Mmh. Bon, après il y avait beaucoup de talent côté marocain par rapport à nous, mais justement dans ce vécu, le premier match qui est un avec la cérémonie, avec tout ce que ça engendre, mes joueurs étaient un peu inhibés. Donc c'est surtout ça que le premier match, on doit le jouer à fond dès le départ.
Merci beaucoup Corentin Martins, on vous retrouvera avec plaisir et avec les Mourabitoun, donc à cette CAN 2019. À bientôt.
Merci.
Et on vient de parler du Maroc justement, on va enchaîner justement avec le Maroc qui s'est qualifié aussi, qui fait partie des nouveaux qualifiés du week-end. Le Maroc qui a battu le Cameroun sur un doublé de Hakim Ziyech. Alors là aussi c'est une première historique puisque jamais le Maroc n'avait encore battu le Cameroun. C'est un signe de progression d'après vous Patrick ?
Signe de progression, je sais pas. C'est peut-être aussi un signe de stagnation du Cameroun, quand même. Hein. Il faut le voir aussi dans les deux sens. Sur le match, le Maroc a un peu peiné à concrétiser sa domination en première période. Et c'est Ziyech qui avait déjà été le plus dangereux avant la pause, qui a vraiment porté la stockade. Bon, il a transformé un penalty avant de mettre le deuxième but, donc il a tout fait quoi. Hein.
C'était un Ziyech comme on aimerait l'avoir vu à la Coupe du Monde en Russie, non?
Oui, mais est-ce qu'il a été si décevant que ça en Russie, vous trouvez?
Oh, il lâchait pas assez vite le ballon, mais c'est peut-être pas uniquement de sa faute, effectivement.
On va bien épauler à ses côtés.
Quand tu joues sans attaquant, enfin, excusez-moi, c'est difficile de trouver un relais dans la surface, parce que c'était aussi le problème de cette sélection marocaine. Je suis un peu dur avec Boutaïb, qui a
joué tous les matchs.
Voilà, qui a été plutôt courageux. Mais après, Hakim Ziyech, aujourd'hui, ses statistiques avec la sélection marocaine, elles parlent pour lui. Je crois que c'est 12 buts en 18 matchs. Il tire les pénalties comme pas grand monde. Il est capable d'évoluer à plusieurs postes. Meneur de jeu, milieu relayeur. S'il faut descendre un peu plus bas et gérer le jeu, mettre le pied sur le ballon, il en est capable. Pour moi, c'est aujourd'hui la valeur ajoutée et même la star de l'équipe du Maroc. Je vois, par exemple, que la CAF a retenu 5 joueurs pour le titre de meilleur joueur de l'année en Afrique. Il y a Mané,
C'est la BBC.
La BBC, pardon. Mais il y a Mehdi Benassia.
Ziyech,
pour
bizarre.
Moi, le joueur aujourd'hui.
Complètement.
Le joueur plus, c'est lui. Donc voilà, après le match, franchement, moi je l'ai regardé entre guillemets. Le Cameroun a eu aussi des occasions et des opportunités avec des face-à-face. C'était pas un match de très très haut niveau. On sent encore que ce sont deux équipes qui sont dans une phase, non pas de compétition vraiment ou de compétitivité absolue. Et le Cameroun interroge quand même. Hein.
C'est aussi faussé par le fait que dans cette poule, le Cameroun est supposé être qualifié au titre du pays organisateur. Et comme en zone UEFA, on l'a versé dans une poule de qualification alors qu'il pourrait jouer des matchs amicaux pendant ce temps-là. Et moi, je trouve que ces matchs... j'aime pas parce que ça donne des matchs un peu bâtards où... Les points sont comptés, mais les équipes ne jouent pas vraiment à fond et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc moi, je préférerais qu'on sorte l'équipe qualifiée des éliminatoires et qu'on fasse une poule à trois avec trois équipes qui jouent vraiment pour un ticket. Quoi.
On en profite pour rappeler que la règle est claire, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on reçoit partout, par tous les moyens, pour se faire préciser cette règle. On le rappelle, dans cette poule, en dehors du Cameroun, il n'y a qu'une place de qualifié. Hein, donc c'est joué. Les deux qualifiés de cette poule, c'est le Cameroun en tant que pays organisateur et le Maroc, et tant pis pour les Comores.
Hein. Et c'est pratique parce que si jamais la CAF changeait le pays organisateur et l'attribuait au Maroc, il n'y aurait pas à changer toute la distribution des équipes.
Alors, on poursuit notre revue des qualifiés. Il y a l'Algérie aussi qui s'est qualifiée en allant obtenir une victoire convaincante au Togo, 4-1. On dit souvent, Nabil, que l'Algérie, en Afrique de l'Ouest, a parfois du mal.
En Afrique tout court, ils voyagent mal, les Algériens.
En Afrique de l'Ouest, parce que l'Algérie est en Afrique, je vous rappelle. Hein, géographiquement.
C'était un point de polémique, ça.
donc, c'est une expression pour dire que l'Algérie, à l'extérieur, n'est pas aussi redoutable qu'à domicile.
Ouais. Mais là, ils vous ont convaincu? Doublé de Mahrez.
Ouais, c'est leur prestation la plus convaincante depuis très longtemps à l'extérieur, disons. C'est une équipe qui a été reprise par Jamel Benhadi en cours de route. Donc il a fait des choix forts, il a notamment écarté Nabil Bentaleb, le joueur de Schalke au milieu de terrain, il a intégré quelques joueurs du championnat d'Algérie qui connaissent eux les conditions parfois difficiles comme ce fut le cas hier notamment du côté du stade municipal de Lomé. C'est une équipe qui a fait preuve d'une certaine discipline tactique, d'une certaine organisation, qui n'a pas fait le jeu à l'extérieur, et je pense que c'est la meilleure solution pour l'Algérie, et qui a ensuite fait la différence par ses talents, parce que des talents, elle en a, parfois elle en a trop même, mais là, pour le coup, comme Belmadi a quand même fait des choix assez forts, c'est Riyad Mahrez qui a répondu présent, et ça faisait longtemps qu'il l'avait pas fait, avec quand même un doublé de haute facture hier, avec deux buts magnifiques.
Et alors, ce qui est assez fort, moi je trouve, c'est que, bon, je vais tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Nabil, l'Algérie a très bien su alterner des phases de conservation, comme elle fait d'habitude, et un jeu d'attaque rapide. Et les trois buts viennent d'un renversement du côté gauche vers le côté droit, avec trois fois dont Attal qui marque un but splendide, avec une chevauchée digne de Maradona, pratiquement, et deux buts de Mahrez sur des frappes côté droit, quoi. Donc c'est assez extraordinaire, quoi, cette constance-là, et le fait que le Togo se soit fait avoir trois fois en moins de 20 minutes comme ça. Donc
Et du coup, le Togo se retrouve à la lutte avec le Bénin pour le deuxième ticket. Le Bénin qui s'est fait surprendre en Gambie, qui a été battu 3-1.
Alors qu'il menait à la mi-temps.
Et ça va nous donner donc...
La Gambie reste dans le coup, c'est surtout aussi une des informations de cette cinquième journée.
Ils sont ensemble.
Si la Gambie gagne en Algérie, on n'y est pas. Hein. Ah, mais les Gambiens, ils se déplacent pas pour faire du tourisme, c'est ça que je veux dire.
Exactement, ils sont trois pour le deuxième ticket, vous avez raison.
Donc, et le Bénin est favori.
Alors, on aura un Bénin-Togo en mars pour cette sixième journée. Le Bénin aura l'avantage de recevoir. On va dire un mot de cette Égypte-Tunisie. Bon, entre deux équipes qui étaient déjà qualifiées.
Bon match.
L'Égypte, c'était vendredi soir, s'est imposé 3-2.
Heureusement
qu'il est un homme qui a surgi dans le temps additionnel.
Un but de Salah avec un piqué délicieux. Mais heureusement que ce match-là n'avait plus d'enjeu, parce que une semaine après la finale Ali-Espérance, s'il avait compté pour la qualification, je pense que il y aurait eu pas mal de semelles.
Ouais. En tout cas, la Tunisie n'avait pas perdu depuis un moment. Ça peut compter aussi.
Après, c'était un match où ils étaient déjà qualifiés. C'est une revue d'effectifs également. Ça a permis de voir qu'ils pouvaient compter sur des hommes forts. Sliti a été auteur d'un doublé, le Dijonais.
Sliti qui a eu un de ses débuts de saison difficiles en club. Ouais. Là, il s'est remis à un bon niveau. Là.
On a vu aussi le rôle important de Kazri dans cette équipe. Bon, la Tunisie sera à la CAN. Après, avec quelle ambition, ça c'est une autre histoire.
Voilà, la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Alors, comme annoncé, ce n'est que le début de notre débrief, entre guillemets, de cette journée éliminatoire. On y revient demain, promis, pour évoquer les qualifs de quatre autres équipes, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali et l'Ouganda.
Et le Nigeria aussi.
Radio Foot International.
Christophe Jousset.
L'équipe de France se dispersera ce mardi soir à l'issue du match amical contre l'Uruguay au Stade de France, mais il faudra sans doute une très bonne prestation pour dissiper un peu l'impression très négative que les Bleus ont laissée en se faisant battre par les Pays-Bas vendredi soir à Rotterdam 2-0. On va revenir sur cette rencontre dans un instant, mais d'abord on accueille Antoine Grenier qui est l'hiver comme l'été au Basque de l'équipe de France. Bonjour Antoine.
Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. C'est plutôt l'hiver d'ailleurs actuellement. Il fait 3-4 degrés ici au Stade de France, maximum.
Donc vous n'allez pas passer la nuit là-bas, vous allez rentrer, vous réchauffer un peu avant de commenter ce match. Vous êtes déjà dans ce stade où vient de se tenir la conférence de presse de l'Uruguay. Comment vont messieurs Oscar Tabarez, le sélectionneur, et Luis Suarez?
Écoutez, ils étaient là, donc c'est qu'ils allaient suffisamment bien pour animer une conférence de presse et pour tenir un entraînement actuellement à huis clos dans le Stade de France, histoire de sentir un peu cette pelouse sur laquelle ils joueront demain. Oscar Tabarez, il a tenu exactement le même discours qu'il avait tenu avant le quart de finale de Coupe du Monde face à la France. Il a rappelé ses liens, les liens qui unissent l'Uruguay et la France, et puis également que cette équipe affronter cette équipe de France championne du monde, pour lui c'est tout simplement un privilège, le mot a également été employé par Luis Suarez, l'attaquant uruguayen, pour qui on n'est pas obligé de le croire, mais qui a assuré que ce n'était pas une revanche, cette rencontre face aux Français.
Oui, par rapport au match de Nijni Novgorod, c'est ça. il faut aussi se demander si les Uruguayens sont assez confiants par rapport à la prestation de la dernière prestation en date des Bleus. On en a parlé sans doute.
Oui, évidemment, on leur a posé la question, du coup, est-ce qu'ils pensaient que cette équipe de France était faillible ? Eh bien, Luis Suarez, il a tempéré énormément l'enthousiasme des quelques journalistes uruguayens qui étaient là, en disant, en gros, écoutez les Français, ils ont perdu un match, ça arrive à tout le monde seulement, ça reste les champions du monde, ça reste une très grosse équipe, et il va falloir faire une grosse performance, nous, Uruguayens, pour s'imposer face à ces Français qui, en plus, seront devant leur public. Au passage, le Stade de France qui devrait être à guichet fermé demain.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Alors, il faut poser un diagnostic sur cet échec des Bleus. Oui. Première défaite depuis mars dernier, 3-2 contre la Colombie. Pour lancer les débats, un protagoniste, l'un des nombreux joueurs qui ont déçu dans les grandes largeurs vendredi, comme Antoine Griezmann et d'autres, Kylian Mbappé.
Le problème, il était plus collectif, comme je vous ai dit. Je pense que c'est plus un non-match. Parce qu'il y a, à part Hugo, qui a fait une remarquable performance, je pense qu'il n'y en a aucun qu'on peut sortir du lot et se dire qu'il a été à 100% de ses capacités, à 100% de son niveau. Donc c'est pour vous dire que la prestation, elle était inquiétante. Donc je pense que c'est un match qu'on peut pas oublier parce qu'il était très important, mais il n'y avait rien à tirer de ce match et on est dans l'obligation de réagir au plus vite et ça vient mardi. Donc après, pour revenir à moi, Antoine, c'est normal que lorsque vous avez des bons joueurs dans une équipe, vous puissiez vous reposer sur eux. On se doit d'être beaucoup plus présent quand l'équipe est en difficulté, parce que c'est ça, être des joueurs qui font la différence, je pense.
Voilà, Antoine Grenier, la réponse de Kylian Mbappé à votre question sur le fait que les stars de cette équipe sont pas sortis pour l'aider à sortir la tête de l'eau.
Oui, quand Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne sont pas à 100%, en tout cas ne sont pas décisifs, cette équipe de France, elle avance pas. On l'avait vu déjà face à l'Islande, ça avait été un coup de semonce où les Français se sont retrouvés quand même menés 2-0 par les Islandais avant que Kylian Mbappé ne fasse la différence, inverse le cours du jeu et ne finisse par obtenir à lui tout seul le match nul de partout. Contre l'Allemagne, Antoine Griezmann avait marqué un doublé et ça avait permis aux Bleus de s'imposer 2-1. Mais là, face aux Pays-Bas, Griezmann, Mbappé ont été inexistants, il faut le dire. Pour Mbappé, surtout bien muselé par De Ligt, le défenseur central. Et du coup, l'équipe de France s'est inclinée comme s'il n'y avait pas de solution hors de Mbappé-Griezmann.
Marc Libra, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse proposée ?
Non, mais le problème avec cette équipe de France, c'est qu'elle est, on avait vu les trois matchs de poule de Coupe du Monde, on est presque dans le même schéma, alors qu'on n'arrive pas, on ne prend pas de but sur cette phase de Coupe du Monde. Ça se passe plutôt bien, mais aujourd'hui, si l'équipe de France ne travaille pas ensemble, la philosophie de jeu, il n'y en a pas aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait une philosophie de jeu, puisque quand on voit ce match-là, on se dit, Mbappé va très très vite, alors on va attendre et on va essayer de l'envoyer. À un moment donné, c'est bien gentil, mais si la plupart des joueurs ne font pas l'effort sur ce qu'ils sont arrivés à faire sur 50 jours, sur cette aventure collective qui a été très importante, la Coupe du Monde, s'ils ne peuvent pas le remettre en place, ça ne fonctionnera pas. On peut avoir Mbappé qui est pour moi le futur grand, c'est du gâchis. C'est vraiment du gâchis. Donc après Giroud, après Griezmann, après on peut faire ce qu'on veut. On était en retard sur tout. Les questions qu'on peut se poser, Deschamps aime bien parler de confort. Oui, il y a un certain confort. Mais ce confort aujourd'hui, c'est quand même lui qui l'a mis en place. C'est quand même lui qui prend Pavard. C'est lui qui prend Sidibé. C'est lui qui prend Rami. C'est lui qui prend Thauvin. C'est des joueurs. Alors certains sont sur le banc. Mais Kimpembe aujourd'hui, c'est la suite de l'équipe de France. On le met en avant. On lui fait plus de mal que du bien. Alors certes, il y a pas mieux. S'il y a pas mieux aujourd'hui, je ne sais pas. Donc tout ça, ce sont des interrogations. Kanté, qui aujourd'hui joue dans un rôle beaucoup plus haut avec Sarri et Chelsea, m'intéresse. Pourquoi on va le cantonner devant la défense? C'est-à-dire que ce qu'on a mis en place pendant la Coupe du Monde, aujourd'hui, il faut évoluer parce que les équipes, ça, et puis on va se rappeler l'Allemagne, les 40 premières minutes face à l'Allemagne, où on a très très chaud au Stade de France. On va se rappeler face à l'Islande, où on est bougé dans tous les sens du terme. Et c'est Mbappé qui est en colère, comme il était à Marseille, qui rentre et qui fait la différence. Donc s'il faut piquer Mbappé, ou s'il se dire, la philosophie de jeu, c'est on envoie des longs ballons et il va accélérer. Mais c'est pas ça le football. Donc il faut vite retrouver un système de jeu et nous proposer quelque chose d'autre.
C'est aussi les limites du principe de continuité.
Mais continuité dans ce groupe, dans où les joueurs ont travaillé ensemble en équipe, c'est tout.
Justement, la continuité en soi, c'est plutôt bien pour la gestion d'un groupe. Le problème, c'est que avec Didier Deschamps, on a surtout une continuité dans le choix des hommes, au lieu d'avoir une continuité dans le fond de jeu, puisqu'en fait, il n'y en a pas vraiment. L'équipe de France est tributaire, comme l'a dit Marc, des exploits ou pas de ses meilleurs joueurs, comme l'a dit Antoine avant aussi. le fond de jeu, on ne sent pas qu'il y ait des certitudes où les joueurs pourraient être interchangeables. Et par exemple, si Giroud n'est pas là et qu'on met un autre attaquant à la place, ça continue de fonctionner. On ne sent pas ça.
Après, bon, j'entends tout ce qui est dit. Enfin, j'y adhère en partie. Le fond de jeu, essayer de passer à une version 2.0 de cette équipe, comme en 98, on a vu une toute autre équipe en 2000 quand l'équipe de France a gagné l'Euro. Alors, il y a quand même quelques correctifs, enfin pas quelques correctifs, mais quelques nuances à apporter. Manquait Pogba quand même sur ce match-là. On a vu qu'il avait mis trois profils similaires au milieu de terrain.
Oui,
pas de créativité. Il aurait pu mettre. Non, mais je veux dire, quand Pogba il va revenir, ça peut être.
Il aurait pu ou pas.
Ouais, voilà. Après, il fait ses choix. Il y a aussi une logique. Il est dans sa logique de groupe. Il y a peut-être toujours cet esprit de sélection, de célébration d'après Coupe du Monde. Hein, je rappelle quand même qu'on est quand même aussi champion du monde. Alors, certes, ça ne dédouane pas tout et pas du jeu et de la manière dont on a été quand même malmené par cette équipe des Pays-Bas. Parce que, disons-le honnêtement, sur Hugo Lloris, ça aurait pu faire 4 ou 5-0. Ouais. Pour le coup, le système, le 4-3-3, on a compris que ce n'était pas ce qui était efficient, puisque ce qui a permis aussi à l'équipe de France de s'exprimer, c'est de recentrer, notamment en 4-2-3-1, Griezmann. Ça n'a pas été le cas contre les Pays-Bas, mais ceci étant dit, ça ne doit pas expliquer l'écart de classe qu'il y a eu sur ce match-là face à une équipe des Pays-Bas qui a, souvenez-vous, il y a un an qu'on avait affronté, qu'on avait largement dominé au Stade de France. Ouais. On a vu que eux avaient travaillé, eux avaient progressé. On s'est fait confisquer le ballon par des gamins de 20 ans au milieu de terrain.
Jusqu'à 80%.
Et notamment De Jong, on n'a pas vu le jour.
Question d'envie aussi.
Question peut-être d'envie, mais c'est difficile.
Pourquoi on fait cette Ligue des Nations alors? Ouais, c'était pour l'envie,
c'était pour l'envie. Quand t'es champion du monde aujourd'hui, tu peux pas te permettre.
Ah ouais. Je pose la question. Enfin, l'impression visuelle.
Oui. Là aussi, sur l'envie, Christophe, je pense que. Il est évident qu'une équipe qui vient d'être championne du monde comme la France, elle est un petit peu plus rassasiée que l'équipe des Pays-Bas qui est en pleine reconquête.
Et puis qui a envie de faire tomber le champion du monde aussi.
Après, le statut de la Ligue des Nations pose problème, puisqu'en fait, c'est comme si on organisait la session de rattrapage avant l'examen, puisque les éliminatoires classiques seront l'examen principal. Et là, on fait la session de rattrapage avant. Donc... Là encore, c'est comme ces matchs à statut un peu bâtard là du pays organisateur dans les éliminatoires de la CAN. Certaines équipes ne la jouent pas à fond, la Ligue des Nations, puisqu'elles se disent de toute façon, il nous restera les éliminatoires. Donc, moi, la position de l'épreuve dans le calendrier me pose problème, plus que l'épreuve en elle-même.
Ouais, mais après, il y a le match, et le match, on est obligé d'analyser.
Mais ça, perdre, ça joue dans la tête, tout
perdre,
ça.
Perdre entre nous, ce n'est pas grave, mais perdre de cette manière-là, c'est gênant.
C'est un gros problème. Voilà. Après, par rapport à ce que disait Nabil, par rapport à Pogba, faut pas oublier qu'il était là face à l'Allemagne, face à l'Islande, il était là aussi. Donc, et si les gens commencent à dire, parce que j'entends les gens, ah ben non, mais parce qu'il manquait, Lucas, Hernandez, il manquait Pogba, donc c'est pour ça. Non, c'est pas pour ça. Il y a des attitudes à avoir sur le terrain que les joueurs n'ont pas. Quand on voit Pavard qui est en retard d'un mètre cinquante à deux mètres, que Lucadine n'est pas au niveau.
Mais
je suis entièrement d'accord avec toi. Mais donc, il ne doit plus être là. C'est-à-dire que là, tu dois renouveler. T'as un joueur comme Ruben Aguilar de Montpellier qui est très bon et qui, malheureusement, n'est jamais mis en avant.
Surtout,
tu as des joueurs de Ligue 1 qui sont au milieu de terrain que peut-être tu pourrais les prendre. Mais teste.
Non, mais juste, là, on avait un match amical qui a lieu demain contre l'Uruguay. C'est l'occasion d'ouvrir le groupe, de reposer certains joueurs.
Et on va te présenter les Sidibé qui est à la rue et tous les mêmes mecs comme Thauvin qui sont pas très bien en club.
Sidibé, il est annoncé comme partant dans le 11 partant demain. C'est pas forcément lui rend service à lui. Hein,
Antoine Grenier, qu'est-ce que vous pensez? C'est aussi l'occasion d'une remise en question des hommes là et d'un signal qui intervient pour le sélectionneur.
C'est surtout l'occasion d'une remise en cause générale parce que finalement sur ce match contre les Pays-Bas, Didier Deschamps, il a fait exactement la même erreur qu'il avait faite lors du premier match de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que le 4-3-3 qu'il a aligné face aux Pays-Bas était le 4-3-3 qui avait fonctionné contre l'Allemagne. Tout comme le 4-3-3 qui avait été à l'Australie était celui qui avait marché contre l'Italie en amical. Bref, il a pensé, Didier Deschamps, qu'en remettant le même système, il trouverait les solutions. Ça n'a pas été le cas. Il va falloir sur ce plan-là qu'il se pose pas mal de questions. Après, sur l'utilisation de demain, sur la composition de demain, effectivement, Djibril Sidibé est annoncé partant à la place d'un Benjamin Pavard qui a pas été bon tout simplement face aux Pays-Bas et qui va peut-être falloir reposer pour ses échéances en club parce que c'est compliqué pour lui, mais aussi pour les échéances à venir en sélection parce que il y a pas beaucoup de monde dans l'esprit pour l'instant de Didier Deschamps qui pousse sur ce côté droit. Par contre, il y a peut-être une petite ouverture à gauche, c'est-à-dire que en l'absence de Lucas Hernandez, on a vu Lucas Digne face aux Pays-Bas qui a fait du Digne, c'est-à-dire plutôt transparent, mais on pourrait éventuellement voir on pourrait éventuellement voir pourquoi pas Ferland Mendy qui est venu en conférence de presse, qui s'est présenté un petit peu à tout le monde et qui postule, pourquoi pas. Il a un excellent pied droit, il a un excellent pied gauche, bref, c'est un joueur qui pourrait être à suivre. Et également, on sait dans la composition de demain, Tanguy Ndombele titulaire à la place d'un Steven Zonzi qui était complètement perdu dans ce 4-3-3 face aux Pays-Bas, qui a pas du tout joué le rôle qu'il aurait dû jouer, qui a sûrement perdu des points pour l'année 2019, Steven Zonzi. Et puis enfin, dernier ballotage, est-ce qu'Antoine Griezmann jouera? C'est pas sûr. On aura peut-être Nabil Fekir derrière Olivier Giroud. Et ça aussi, ça prouve que Didier Deschamps, il a regardé le même match que nous. Il a vu un Giroud qui était complètement isolé face aux Pays-Bas. Il va lui mettre un 9,5 ou un 10 juste derrière lui pour utiliser Giroud un peu plus comme il faut l'utiliser, c'est-à-dire en fixation, en remise. Bref, on va avoir face à cet Uruguay une équipe de France un petit peu remaniée, qui aura certainement les crocs parce qu'elle est vexée, ça c'est aussi une certitude, mais elle affrontera aussi des Uruguayens qui, il faut le rappeler, sont remaniés également. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe uruguayenne, et les jeunes, on l'a vu face aux Pays-Bas, ça réussit pas tout le temps à l'équipe de France.
Dispositif offensif à revoir impérativement, Marc Libra.
Oui, il y a ça. Et est-ce que Antoine Griezmann sera là? Parce que je l'ai vu hier soir sur une émission de télé en Espagne.
Mais c'est enregistré.
Ah, c'est enregistré.
Oui, bien sûr.
Ah ouais, parce que.
Mais il sera là si.
D'accord.
Antoine Grenier, notre Antoine à nous, pas évident qu'il soit titulaire.
Non, mais pour en revenir à Fekir, par exemple, sur le match face aux Pays-Bas, le premier remplacement, c'est Sissoko. Pourquoi il rentre pas Fekir à ce moment-là? Non, mais je peux dire, on voit bien qu'il manquait du lien entre les lignes. Tu prends Sissoko. Sissoko, il apporte de l'impact. C'est sûr, il peut porter le ballon, percuter, traverser des lignes. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se poser des questions sur le coup, sur le coaching de Didier Deschamps. Mais demain, c'est l'Uruguay. Et l'Uruguay, c'est une équipe qui nous ressemble. C'est une équipe qui joue pas. Ou qui joue très peu.
Donc vous annoncez un match pas spectaculaire pour dessous.
Non, j'annonce pas ça, mais j'annonce peut-être pas un 4 partout quoi.
Patrick.
Non, on sait jamais, je pense que il y a des incertitudes des deux côtés, il y a des équipes qui sont pas au mieux des deux côtés dans leurs résultats récents, donc elles ont envie de se refaire aux yeux de leur public, donc ça devrait être plus sexy que ça n'y paraît au départ.
Allez, merci Antoine Grenier. On vous laisse au Stade de France terminer tranquillement la journée. On vous donne rendez-vous demain donc pour le suivi de cette amicale entre la France et l'Uruguay au Stade de France avec cette fois en principe Cavani, hein, contrairement à ce qu'on en a vu à la Coupe du Monde. 35 ans que la Suisse n'avait plus battu la Belgique, et hier en Ligue des Nations à Lucerne, c'était assez mal parti puisque la Suisse a commencé par encaisser deux buts. Dans les deux cas, vous avez vu que le défenseur de Mönchengladbach, Elvedi, était impliqué dans ses buts des 2e et 17e minutes, marqués tous les deux par Thorgan Hazard. Et puis, alors que les Belges semblaient avoir toutes les cartes en main, eh bien le château de cartes s'est effondré. Elvedi a marqué un but et surtout, Seferovic en a marqué 3. Résultat, victoire 5-2 pour la Suisse contre la Belgique. Et la Suisse sera donc dans cette fameuse finale à 4 du mois de juin. Quel renversement de situation. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça a basculé dans l'irrationnel quand même, ce match, il faut être
honnête. Pour les Belges. Écoutez, avant de vous donner la parole, Nabil, on va donner la parole à Thomas Meunier. Vous savez que quand on veut une analyse sans indulgence,
c'est très bien,
c'est toujours intéressant d'aller le voir, et c'est ce qu'a fait la chaîne L'Équipe. On écoute ce que le défenseur belge a dit à nos confrères.
C'est catastrophique ce soir. Après un bon début de match avec une tactique qui était claire, c'était de laisser venir l'équipe suisse, puisque il le fallait tout simplement, la victoire ce soir, et les espaces on allait en avoir, on les a vus après le 0-2. On avait la parfaite gestion de la rencontre, et puis par la suite on a complètement craqué. On connaissait leur point fort, c'était leur côté droit, et on s'est fait balader tout le match. Il y a eu un manquement un peu général, que ce soit pour les marquages, les couvertures, la reconversion offensive, défensive. Il y avait une envie, mais pas assez de rigueur, pas manque d'agressivité, c'était juste pas bon.
Voilà, catastrophique,
bah, ils avaient en plus ils ont un titre de faux champion du monde à défendre, les Belges, puisque ils ont une haute estime d'eux-mêmes. On en
champion
a assez...
du monde du SAM.
Ouais, on en a assez souri.
Attendez, ils sont numéro 1 au classement de la FIFA.
Oui, mais je les appelle les champions du monde du fake. C'est-à-dire que, en gros, on est là pour sourire aussi. On se souvient très bien de cette demi-finale face à l'équipe de France où ils en sont ressortis extrêmement.
Ils ont pas gagné.
Extrêmement déçus parce qu'ils avaient
avec
estimé.
Avec le frustromètre au maximum.
Voilà, ils avaient estimé qu'eux avaient joué au foot et pas les Français qui c'était avoir sur un coup de pied arrêté. Mais ce match d'hier était assez intéressant et puis assez spectaculaire. Cette Ligue des Nations, finalement, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même une réussite en termes d'intensité, de spectacle et même d'ambiance, puisque le stade était rempli, comme pour d'autres matchs également. 0-2 très rapidement pour la Belgique. Qui aurait pu penser une seule seconde, même malgré les qualités de cette équipe suisse qu'on avait vue à la Coupe du Monde, faire quand même des belles choses. Elle était tombée dans un groupe difficile avec le Brésil, la Serbie et le Costa Rica, mais l'analyse, on n'a pas besoin de la faire. Il l'a faite pour nous, Thomas Meunier. Il explique tout, quoi. Il explique suffisance, manque d'agressivité, manque d'abnégation, des erreurs tactiques pas habituelles pour cette équipe belge. Mais n'oublions pas que l'équipe de Belgique est quand même une équipe à tendance très offensive par son schéma tactique. Et là, elle s'est retrouvée à devoir finalement faire ce qu'elle ne fait plus tant que ça. Défendre. Et cette équipe suisse a su en profiter.
C'est surtout que Thomas Meunier nous dit bien, on avait décidé de les laisser venir.
Mais ils les ont étouffés au départ. C'est ça que je comprends pas.
De leur laisser l'initiative du jeu.
Ces buts arrivent rapidement. Donc si tu veux, tu dis bon allez.
Et puis le premier est un peu cadeau.
On marque rapidement. Bah le coach a dit on laisse venir. Et lui dit on avait décidé. Mais quand tu laisses venir, qu'ils sont capables d'en mettre 6 face à l'Islande, que des Seferovic, que des Uber, que les gars sont pas maladroits. Non. Chacun. Si à un moment donné, tu 2-1, 2-2, 3-2, et puis tu commences à dire, finalement, je vais essayer de raccélérer le jeu, et là, ça s'inverse, ils ont fait une grosse erreur, parce qu'à 2-0, tu dis bien, on ferme, et là, non, on les laisse venir, et tu laisses venir, les mecs, ils sont pas maladroits, et ils te l'ont montré en tout cas.
Vous menez 2-0, et vous savez que même une défaite 3-2 vous qualifie, et finalement, vous perdez le match, et la qualif face à une équipe de Suisse, qui a pu compter sur Haris Seferovic. Premier triplé en équipe nationale pour l'attaquant du Benfica.
Absolument, et c'est surtout un joueur qui était un peu le mal-aimé, qui est assez controversé dans son pays. C'est un peu comme Giroud en France, c'est-à-dire que les supporters de la Suisse contestent beaucoup sa présence, sa titularisation régulière.
Et le dernier épisode, épisode marquant, c'était...
contre l'Albanie. Le match où il rate tout, la Suisse gagne, mais lui, il rate, il mange la feuille.
Depuis, il y a eu aussi ce barrage d'accession à la Coupe du Monde contre l'Irlande du Nord. 0-0 au match aller. 1-0, pardon, pour les Suisses au match aller. Et au retour, 0-0 avec un Haris Seferovic qui sort sous les sifflets du Parc Saint-Jacques.
Et c'est pas la première fois. Vous avez raison. Et c'est pas la première fois. Et bon, c'est une belle revanche pour ce joueur qui est, bizarrement, c'est un joueur qui est très fin techniquement, mais pas aussi efficace que sa technique lui permettrait. C'est-à-dire que un attaquant, en général, c'est avant tout efficace avant d'être fin. Lui, c'est un peu l'inverse. Donc, c'est un joueur un peu paradoxal.
Marc, il vous a plu, ce Seferovic?
Ouais, c'est un joueur qui a un profil un petit peu atypique. Encore une fois, avec ce système à 3 derrière lui et le tout seul devant, il doit faire le boulot. Et quand on le sert bien, parce que Giroud, on critique Giroud, mais il faut le servir. Si on arrive à le servir, puisque sur le match d'équipe de France,
on se sert de lui, Giroud, c'est différent.
Mais c'est exactement ça, on se sert de lui, puisqu'encore Griezmann, hier soir, nous explique, j'ai besoin de lui, il est important. Comme peut dire Hazard actuellement, c'est important. Moi, Giroud, j'adore, je me propose sur lui. Donc ouais, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, il a été très bon et je suis content pour la Suisse.
Seferovic et Griezmann ont joué ensemble, souvenez-vous, à la Real Sociedad. Ils étaient venus s'imposer à Lyon en tour préliminaire de la Ligue des Champions.
Superbe.
Et c'est un joueur, moi, que j'attendais plus haut, Seferovic, parce qu'il est extrêmement talentueux et Patrick a raison de rappeler qu'il est fin, parce que c'est un joueur fin techniquement.
Mais plus fin qu'efficace. Voilà.
Dommage pour un attaquant. Un des signes de sa finesse technique, peut-être, c'est que là, hier, il marque...
Fin, mais pas efficace pour l'OM, peut-être, c'est bon.
Hier, il marque un du gauche, un du droit et un de la tête. One goal you feel away from place in the semi-final. And that is the goal! Harry Kane in the nick of time! His goal touches back right on cue! I think in terms of Harry...
Pour moi, Harry Kane est vraiment le meilleur avant-centre du monde. Il est notre tireur de penalty, notre leader. Dans 98% des matchs, son instinct et tout ce qu'il nous apporte est crucial. Son jeu de passe est aussi excellent. Regardez le ballon qu'il a donné à Raheem Sterling en première période. Quelle passe fantastique! Nous avons tous une grande confiance en lui. Et puis, il a tellement envie d'aider l'équipe et de l'amener encore plus loin qu'on va le suivre.
Ah, Gareth Southgate, il aime son Harry Kane. Hein. Bah, hier, oui, qui ne l'aimait pas.
En service, hein,
Et pourtant, Harry Kane n'a pas réussi énormément de choses dans la première partie du match.
Comme toute l'équipe.
Ouais, mais c'est le rôle d'un buteur, c'est-à-dire qu'il peut être mauvais pendant tout le match et c'est pas Marc qui va dire le contraire.
On lui demande
déjà
juste
été
ça.
Très mauvais et marqué à la fin.
Et après, j'ai une note de 8. J'ai été inexact, j'ai mis juste un but.
Voilà, ça c'est le but qui compte. C'est le but qui fait la différence.
Non, mais l'Angleterre, c'est un petit peu ce qu'on avait vu beaucoup à la Coupe du Monde. C'est une équipe qui est championne du monde des coups de pied arrêtés. Mais dans le jeu, ça dégage pas grand chose quand même. Hein.
Ouais.
Là, je mets un peu les pieds dans le plat. J'adore l'Angleterre, j'adore le foot anglais, mais cette équipe-là.
Ouais,
on
mais
se
bon,
dit, c'est dommage, dommage qu'il n'ait pas eu Southgate sélectionneur quand c'était l'époque de Gérard, de Lampard, Beckham, parce que là, il n'y a
tout
plus
cas,
ces joueurs-là.
Cette équipe d'Angleterre,
oui,
a battu hier les vice-champions du monde croates, 2-1, ouais. Après avoir été menés au score.
Merci le gardien, quand même.
Ouais, mais bon, ils l'ont fait quand même.
Et c'est elle qui ira en demi-finale.
Voilà. Franchement, on peut toujours critiquer le contenu, la tactique, on peut estimer que Southgate n'est pas un génie tactique, on peut revenir sur parfois sa défense à 3, sur ses joueurs excentrés, etc. Mais globalement, sur la séquence actuelle, par rapport à la sélection nationale anglaise, on est sur une bonne séquence. C'est une sélection qui a souvent déçu. Elle est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde.
Mm-hmm.
Ça faisait un moment que ça leur était
pas arrivé. Quatrième à l'arrivée.
Voilà. Mm-hmm. Là, vous me dites qu'ils sortent quand même d'un groupe qui est pas simple avec la Croatie et l'Espagne. Ils terminent premier. Alors, ok, on peut avoir des réserves. Mais globalement, si on est dans le résultat, les résultats sont au rendez-vous pour l'Angleterre et ça faisait longtemps.
Toujours pas convaincu, Patrick.
Non,
ni après la Coupe du Monde, ni après.
Mais je trouve qu'il fait du beau. C'est-à-dire que Southgate, il optimise bien ce qu'il a sous la main. Il fait des bons résultats avec des joueurs moyens. Mais il y a
Kane, c'est pas moyen.
J'espère,
hein.
Oui, en attaque peut-être, mais au milieu et derrière, c'est.
T'as
je maintiens,
joueurs qui sont
c'est
pas
moyen.
Moyens,
c'est
Sterling,
moyen.
C'est pas moyen.
Kane est quand même un joueur qui marque 25-30 buts depuis 4-5 ans, qui a une progression, qui ne cesse de progresser.
Ouais, mais je parlais du milieu et de la défense, moi.
Ouais, mais aujourd'hui, quand
les bases de l'équipe, c'est moyen.
Tu as Sterling, Rashford, qui sont aujourd'hui trois joueurs dont on parle pas beaucoup, mais qui font du mal. Ils sont allés battre l'Espagne chez eux 3-2, alors que Ramos marque à la 97, mais ils les avaient bougés. Et offensivement, je trouve que ça commence à perturber et ça fait du mal. Après, c'est vrai que ce système à 3, moi, je trouve que ça a été mis en place. C'est plutôt bien fait. Si on les laisse
L'objectif pour eux, il est à l'euro. On va voir s'ils vont valider tout ce qui est en train de se faire. Peut-être qu'ils ont été, en termes de résultats, beaucoup plus vite que eux ne le pensaient, finalement, quelque part. Mais ça leur donne de la confiance. Et Marc a raison de rappeler qu'ils ont été gagnés en Espagne. Alors, je veux bien que ce ne soit pas l'Espagne d'Iniesta et de Xavi de 2010.
Il faut quand même
les retourner. Hein.
Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe croate qui a peut-être manqué de gaz, toujours aussi généreuse, hein, mais manqué après la victoire en Espagne.
Le problème historique du football croate, c'est-à-dire la faiblesse des gardiens de but, hein, on le voit encore sur ce match.
Kalinic ne fait pas oublier Subasic.
Oui, Subasic déjà, c'est un bon gardien, mais c'est pas un gardien de classe mondiale, donc. C'est un problème assez récurrent des équipes d'ex-Yougoslavie et notamment croate.
Moi, j'ai peur pour l'avenir de cette sélection croate, même si il faut rappeler que c'est un petit pays qui a pas non plus une densité incroyable de nombre de joueurs de très haut niveau. Ils en ont très peu, très fort, et ils travaillent très bien ensemble. Modric a 33 ans, rappelons-le, on l'oublie peut-être parfois. Alors certes, il y a de la réserve et de la ressource avec des Rebic, des Perisic éventuellement, et c'est vrai que jusqu'à la 70e minute, ils étaient quand même premiers de ce groupe. Donc j'ai peur que la pièce soit retombée du mauvais côté pour cette équipe croate.
Oui, la preuve, c'est qu'ils terminent dernier.
Voilà,
dernier de ce groupe.
Ils avaient pris 6 en Espagne.
Ouais, va très vite dans ces poules de 3. Hein.
Le classement final, c'est Angleterre devant Espagne et Croatie. Et l'Angleterre qualifiée pour la finale à 4, où il y aura également le Portugal qui s'est qualifié après un 0-0 avec l'Italie. Bah, Ronaldo, on le reverra peut-être pour la finale à 4 en 2019,
puisque
la parenthèse sera peut-être refermée.
C'est que Sabri, il est là.
C'est la fin de Radio Foot. Rendez-vous demain pour parler encore d'Afrique et de bien d'autres choses. Merci à vous, messieurs. Bonne soirée.